faire de vous des vases d'honneur, des chrétiens de qualité, des hommes et des femmes épanouis dans tous les domaines de votre vie. Voici l'un des buts que la mission évangélique Vases d'honneur vise. À cet effet, des messages d'édification vous sont proposés afin de vous aider à évoluer dans votre vie et dans votre marche avec Jésus. Notre prière, que la parole de Dieu, source de vie, vous transforme et vous apporte la solution à votre problème.
Seigneur, merci pour ce culte que tu nous donnes. Merci pour ta présence. C'est agréable d'être dans ta présence. Merci pour toutes choses. Sers-toi de moi, Seigneur, et glorifie ton nom. Esprit de l'Éternel, saisis-toi de moi. Saint-Esprit, dispose nos cœurs et enseigne-nous. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Vous allez ouvrir vos Bibles avec moi dans le livre de Luc, chapitre 10. Tu vas ouvrir en disant l'amour. Comment aimer Dieu? C'est le sujet de notre enseignement. Thème que nous avons commencé depuis plusieurs dimanches. Nous sommes en train d'apprendre à aimer Dieu. Nous avons étudié depuis le début que l'amour est le commandement nécessaire. L'amour est le commandement essentiel. L'amour est ce principe-là, lorsque nous l'appliquons, qui met un cheminement de vie entre Dieu et nous. Celui qui aime Dieu est en communion avec Dieu. Le pasteur Evan nous avait parlé de la vie Zoé. Cette vie-là coule en lui. Lorsque plus vous aimez, plus vous élargissez le chemin ou le canal par lequel la grâce de Dieu arrive à vous. Moins vous aimez, plus vous réduisez le canal par lequel la grâce de Dieu descend sur vous. Si vous voulez augmenter la grâce de Dieu dans votre vie, vous devez augmenter le canal par lequel Dieu doit passer pour vous bénir. Et ce cheminement-là, c'est le premier commandement, c'est « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de toute ta force, de toute ta pensée. » Et c'est ce que nous sommes en train d'étudier. Amen. Et ce qui te permet toi aussi de communiquer la vie aux autres, d'être une source de bénédiction pour les autres personnes, c'est aussi l'amour pour ton prochain. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Lorsque tu travailles à développer ce caractère, à développer cette attitude, la vie coule en toi et atteint les autres dans tout ce que tu fais. Sur le plan professionnel, le plan médical, dans tous les domaines, on va se rendre compte que tout service que tu apportes aux autres est pour eux une bénédiction. Je vous ai rendu ce témoignage de ma jeunesse chrétienne où j'avais beaucoup de zèle mais sans amour. Je parlais de Dieu et je réprimandais les personnes qui vivaient dans le péché avec violence. Je vivais une vie chrétienne saine, mais je n'avais pas compris le mystère de l'amour. Je ne dis pas qu'il faut accepter le péché, qu'il ne faut pas le condamner, non. Mais je ne le faisais pas avec amour. Et j'attirais très peu de personnes à Jésus. Tout le monde en classe m'appelait peut-être pasteur, mais je ne communiquais pas la vie de Dieu. Amen. J'ai mon ami Baudelaire qui est là, qui se souvient de cette période. Voilà, lui, il était avec moi en classe en seconde où j'évangélisais tout le monde brutalement. Amen. Voilà. Aujourd'hui, je suis content qu'il ait rejoint Vase d'honneur. Amen. Et donc, c'était une période où je parlais de Dieu comme ça, mais il n'y avait pas l'amour dans mon cœur. Je condamnais le péché. Et puis, quelque temps, Dieu m'a donné de rencontrer d'autres personnes qui évangélisaient aussi tout comme moi, mais avec quelque chose de différent. Et lorsque j'ai commencé à grandir dans mon amour, ce n'est pas que je n'avais pas l'amour, j'avais l'amour, mais c'était un peu petit. Lorsque j'ai commencé à croître là-dedans, j'ai commencé à voir la vie de Dieu. J'ai commencé à voir les gens changer. J'ai commencé à avoir plus de grâce dans la guérison, plus de grâce dans tout ce que je faisais. Sur le plan professionnel, quelque chose de positif se dégageait dans tous les environnements où je me retrouvais. Que ce soit sur le plan familial, il y a quelque chose de bien qui a commencé à entrer dans ma maison, dans ma famille. Professionnellement, il y a quelque chose de bien qui a commencé à couler autour de moi. Et cette chose-là ne se développe que par le développement de l'amour. Dis avec moi l'amour. Alléluia. Luc chapitre 10, verset, à partir du verset 38. Dans ce passage, il est question de Jésus qui est arrivé chez des amis, Marthe, Marie et Lazare, et Marie qui l'ont reçu à manger, qui l'ont reçu en fait. Le problème, c'est que dès que Jésus est arrivé, il ne s'est pas reposé. Il s'est mis directement à parler de Dieu, à donner son message. Mais il fallait en même temps s'occuper de lui. Il venait d'arriver. Il fallait qu'il mange, il fallait qu'il ait un endroit où dormir, il fallait préparer le lieu. Et vous savez, à l'époque, il n'y avait pas de téléphone. Donc, le protocole de Jésus ne pouvait pas appeler au téléphone. Marthe, le maître arrive, prépare l'arrivée. Non. Donc, Tout le monde est surpris. C'est là-bas, en fait, tu es tout surpris des visites. Il n'y a pas de... On ne peut pas te prévenir qu'on arrive. Voilà. Jésus donc se retrouve là et il commence à parler. Donc il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à régler. Marie, elle préfère s'asseoir et puis commencer à écouter le message. Marthe, la grande sœur, est consciente qu'il n'y a pas encore, le lit n'est pas encore prêt, le repas n'est pas encore prêt. Et il y a plein de choses qui sont à régler parce que Jésus les a surpris. Il vient d'arriver et il faut faire beaucoup de choses. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Et verset 40 de Luc chapitre 10, on aurait pu commencer au verset 38. Au verset 40, il est dit, Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Verset 42, une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Amen. Alléluia. Je pense que la majorité d'entre nous aurait réagi comme Marthe. Il fallait s'occuper de recevoir Jésus. Donc pendant que Marthe est affairée, mais elle s'occupe de choses importantes. Ce n'est pas qu'elle fait des futilités. Jésus a dit, Marthe, tu t'occupes de beaucoup de choses. Il ne lui a pas dit, tu t'occupes de n'importe quoi. Ça veut dire, il n'a pas dit que ce qu'elle fait là, c'est n'importe quoi. Il dit, ce sont des choses utiles. Il y a beaucoup de choses à faire. Mais il y a une seule chose qui est nécessaire. Marthe arrangeait toutes choses. Peut-être qu'elle était pressée. Elle voulait elle aussi venir écouter le message. Donc, voyant que Marie déjà l'avait devancée au pied du Seigneur, elle va se plaindre. Mais maître, toi aussi Jésus, il ne faut pas cautionner des choses comme ça. Il ne faut pas cautionner ça. Dis à ma petite soeur de venir m'aider. Là, on va tous faire, tout le monde a la parole ici. Mais après ça, il faut bien que tu manges. Après ça, il faut bien que tu aies un endroit où te reposer. Seigneur, dis-lui, entre nous frères, qui aurait réagi comme Marthe? Moi, bon, avant que j'aie compris la révélation. Alors, le Seigneur dit, Marthe, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire. Mais Marthe, sache que une seule chose est nécessaire. Touche un voisin, dis-lui, une seule chose est nécessaire. Une seule chose est nécessaire. Écoutez les amis, dans la vie, il y aura toujours beaucoup de choses à faire. Vous avez des devoirs et des obligations vis-à-vis de la famille, des parents, des amis, de l'église. Il y a beaucoup de choses à faire. Dans le domaine même de la parole de Dieu en tant que chrétien, il y a plein de commandements. En fait, il y a beaucoup de choses à faire. Beaucoup de choses à faire. Dans la vie, vous aurez toujours de nombreux choix, de nombreuses opportunités qui vont se lever devant vous. Plusieurs possibilités de travail ou bien de mariage. Hein, si tu es une soeur, tu as 40 prétendants. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a toujours beaucoup de choses à faire. Mais Dieu dit ceci qui est très important que vous devez retenir. Une seule chose est nécessaire. Dis avec moi, une seule chose est nécessaire. Et c'est une clé puissante. Alléluia. C'est une clé puissante. C'est ce dont j'ai parlé avec les frères du Canada. Amen. Comment vaincre la pression de la vie. Quelles sont les pressions? Ce n'est pas que tu vas aller faire n'importe quoi. Mais tu as trop de choses à régler. Après le message, Jésus mange comment? C'est important. Dans quelle chambre il va dormir? Il n'a pas prévenu. Il faut préparer toutes ces choses. Qu'est-ce qu'il aime manger? Quand même, c'est le maître. Si vous avez prévu manger un riz simple à la maison, mais quand le maître est arrivé, il n'a pas prévenu. S'il avait prévenu, la cuisine l'aurait attendu. Mais il n'a pas prévenu. Parce qu'il n'y a pas de téléphone. Il est arrivé. Alléluia. Alléluia. Il y avait beaucoup de choses à faire. Une seule chose, dis avec moi, une seule chose est nécessaire. Mes amis, écoutez-moi bien. La vie va vous présenter toujours beaucoup de choses à faire. Mais sachez qu'il y a une seule chose que vous devez retrouver. Dans tout ce que les hommes, dans tout ce que le monde attend de vous, si vous trouvez la seule chose nécessaire, toutes les autres choses seront réglées. Une seule chose est essentielle. Une seule chose est nécessaire. Une seule chose. Si tu fais ce qui est nécessaire, tu obtiens les autres. Mais si tu t'occupes de beaucoup de choses, tu risques de ne rien obtenir parce que tu ne finiras jamais de tout faire et tu ne seras jamais satisfait. Je n'ai pas dit que tu t'occupes de futilité. Tu t'occupes de beaucoup de choses. Tu t'inquiètes et tu es agité pour beaucoup de choses. Mais une seule chose est nécessaire. Alléluia. Regardez avec moi Matthieu chapitre 13. à partir du verset 44. Matthieu 13, 44, il est dit, le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Verset 45. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche une belle perle. Il a trouvé une perle de grand prix. Il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Alléluia. Alléluia. La Bible présente ici le royaume de Dieu avec cette caractéristique. Que les choses de Dieu se cherchent. Et il dit, le royaume de Dieu est semblable à une personne qui a trouvé une seule perle ou un seul trésor. Et pour ce trésor-là, il abandonne tout ce qu'il a. C'est deux paraboles qu'il donne. Qu'est-ce que je suis en train de vous expliquer? Que dans la vie, ne cherchez pas à tout faire. Trouvez la chose essentielle. Si vous la faites, vous allez tout régler. Dans votre couple, quand il y a beaucoup de problèmes, je vous assure, il y a une seule chose qui est nécessaire. Lorsque les hommes viennent vous proposer 10 000 opportunités, une seule chose est nécessaire. Le travail de l'enfant de Dieu, c'est ce qu'il donne dans ces deux paraboles. C'est la quête de la chose essentielle. Pas la quête de tout. Ne courez pas après tout. Tu dis en même temps, pasteur, je prends de l'âge, il faut que je me marie. En même temps, il faut que je travaille. En même temps, il faut quoi? En même temps, je dois avoir un enfant. En même temps, quoi encore? En même temps, je dois avoir une voiture. Voilà beaucoup de choses. Mais une seule chose est nécessaire. Il y a une seule chose. Si tu mets la main sur elle, toutes les autres choses seront réglées à la fois. Mais si tu te trompes et que tu ne choisis pas cette chose essentielle, tu vas courir et tu vas t'épuiser. Quand tu vas finir, si la chose essentielle pour toi n'est pas le mariage, tu vas courir après le mariage. Après avoir obtenu le mariage, tu vas courir après le travail. Ou tu dis non, il faut commencer d'abord par le travail. Tu vas courir après le travail. Après, t'être épuisé sur le travail, tu veux te retenir pour aller au mariage, tu as déjà 50 ans. Le temps encore d'aller... Non, tu vois, il y a une seule chose. Tu es avec moi, une seule chose. Une seule chose. Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Et j'aime beaucoup ce passage, je reviens là-dessus parce que moi je crois que c'est la clé de ma marche avec Dieu Seigneur. Trouver la chose essentielle. Trouver la chose nécessaire. Je ne sais pas tout faire. Je ne peux pas tout régler. Dans une église, il y a tellement de choses à gérer en même temps. Mais je ne peux pas tout faire. Je ne peux pas être partout à la fois. J'aime les membres de l'église. J'aime toutes les personnes. Mais je ne peux pas parler avec tout le monde. J'ai compris que je ne peux pas tout faire. Mais toute ma quête, c'est de chercher la chose essentielle. Alléluia. Et il dit, c'est comme ça le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est quelqu'un qui a compris ce mystère et qui recherche ce trésor à tout prix. Il dit, lorsqu'il l'a trouvé, il sait que tout ce qu'il avait obtenu n'est rien. La Bible dit, il vend tout ce qu'il a. Ce n'est pas que les choses qu'il avait étaient mauvaises, mais pour se focaliser sur l'essentiel. Parce qu'il sait qu'avec ce trésor, il va retrouver tout ce qu'il a perdu. Dis à un voisin, cherche ce qui est nécessaire. Alléluia. Et ce que j'ai compris, ce qui nous aide à retrouver ce qui est nécessaire, ce qui nous aide à toucher l'essentiel, c'est justement les choses que le Seigneur donne. L'amour. Il dit dans sa parole, en parlant du royaume de Dieu, cherchez premièrement le royaume de Dieu et toutes les autres choses vous seront données par-dessus tout. Mes amis, le royaume de Dieu est vaste. Et quelle est la chose essentielle dans le royaume de Dieu que toi tu dois chercher? Comment est-ce que tu la retrouves? C'est là que je te donne la clé. C'est l'amour. Vous savez, pourquoi Marie a obtenu la chose essentielle? Elle avait une chose particulière dans son cœur. C'est qu'elle aimait Jésus spécialement. Celui qui développe l'amour pour Dieu finit par trouver toujours la chose essentielle. Dans 10 000 choix qui lui sont proposés, elle arrive à trouver le choix des choix. C'est-à-dire la seule chose que tu choisis qui règle les autres en même temps. Alléluia. Alléluia. Moi aussi un jour j'ai rencontré cela. Le Seigneur m'a visité. Et il m'a demandé, demande-moi tout ce que tu veux. Et je te le donne. Mais demande-moi une chose. Attends, j'ai oublié. Il m'a demandé trois choses, une chose. J'ai oublié il y a longtemps maintenant. Amen. Amen. Et ce jour-là, j'ai fait une prière. Je n'ai pas dit ma prière. Mais j'ai fait une prière. J'en ai déjà parlé dans des messages. Alléluia. Et toute ma vie a changé avec cette prière. Dis à un voisin, une seule chose est nécessaire. Mais elle n'est pas visible. Il dit, le royaume de Dieu est semblable à une perle qu'on a cachée. Je dis bien, cachée dans un champ. Et quelqu'un, c'est comme ça le royaume de Dieu fonctionne. Et tu prends tout ton temps pour aller chercher ce trésor. Et quand tu l'as trouvé, tu sais que tout ce que tu avais obtenu n'est rien. Et tu l'abandonnes pour pouvoir prendre ce trésor. Il dit, le royaume de Dieu est semblable à quelqu'un qui a vu une perle de grand prix. Et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il avait. Alléluia. Tout ce que vous avez à chercher dans votre vie, c'est la chose essentielle. Comment la chercher? Il faut aimer Dieu. Quand vous aimez, plus vous aimez l'Éternel, plus ces choses-là vous sont révélées. Marie, qui a choisi la part essentielle, était différente de Marthe. Vous savez qu'en Jean chapitre 12, je crois que c'est Jean 12, Jean 13, je crois. Marie s'est levée. Et elle a amené, pour adorer Jésus, le parfum de grand prix. Un parfum de très grand prix. C'est une femme qui aimait Jésus, qui cherchait le Seigneur. Ce qui a amené à toujours découvrir la chose essentielle. La clé des clés, c'est l'amour. C'est pourquoi la Bible dit ceci. L'amour est l'essence de tous les commandements. De tous les principes de Dieu. Si tu arrives à aimer, toutes les autres choses viennent après. Si tu aimes Dieu, toutes les prophéties se mettent en marche dans ta vie. Tout ce que tu as à faire, c'est de faire croître ton amour. Tu as déjà de l'amour en toi. Mais il peut être petit. Tu dois le faire grandir. Si tu grandis dans ton amour pour Dieu, tu vas développer cette aptitude-là à sentir les choses essentielles. Le bouton qu'on touche qui met tout en marche. Alléluia. Alléluia. Donnez-moi des bons amen vitaminés. Avec la vitamine A. La vitamine de l'amour. Amen. Et nous avons dit ceci, que pour développer l'amour de Dieu, il y a 5 choix à faire, 5 décisions à prendre. La première de ces décisions, c'était quoi? Décider de servir Dieu. Alléluia. Nous avons dit ceci, tu dois choisir dans ton cœur de servir Dieu. Ça veut dire être un esclave de Dieu. Être un boy pour Dieu. Dans ton cœur, tu ne dois pas vouloir te servir de Dieu. Faire croître son amour pour Dieu, c'est décider dans son cœur d'être au service de Dieu. De faire les choses pour la gloire de Dieu. De faire des choses pour les intérêts de Dieu. La Bible dit ceci, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Alléluia. Tu dois décider d'être au service de Dieu et ne pas regarder l'église ou la prière comme étant un moyen d'entrer dans ce que toi-même tu souhaites pour toi. Alléluia. Dieu veut te donner ce que tu attends, Dieu veut t'exaucer, mais tu dois d'abord être le boy, l'esclave de Dieu. Deuxième choix à faire, deuxième grande décision pour continuer à croître dans ton amour, tu dois choisir de faire les choses de Dieu avec excellence. Alléluia. C'est-à-dire que tout ce que tu fais pour Dieu, tu dois veiller à ce que cela soit fait de manière excellente, c'est-à-dire avec qualité. Alléluia. Tu dois rechercher la qualité. C'est ce qu'on a, la qualité, c'est l'excellence. Tu dois rechercher la qualité. La qualité des choses que tu fais pour l'Éternel, c'est important. Celui qui ne recherche pas la qualité montre qu'il n'aime pas Dieu. Amen. Si Dieu te bénit dans le domaine de la décoration et que tu donne de la qualité à ta décoration. Lorsque tu te retrouves en train de décorer la salle des rois, des chefs d'État ou les hommes riches, et que lorsqu'on t'envoie en campagne d'évangélisation à Kumasi Campement, et qu'on t'amène dans ces endroits difficiles, alors là-bas, comme c'est la déco et que ici peut-être les gens ne sont pas très regardants. Abidjan dit Choco, c'est ça non? Je ne sais pas ce que Choco signifiait. Il y a un gars qui est venu jouer ici, il dit que nous on est Choco. J'ai dit ça veut dire quoi? C'est plus tard, on m'a donné le sens. Et que tu arrives dans ce genre de quartier, dans ce type de quartier, et que là-bas, tu donnes ce qui est moyen. Or, tu es au service de Dieu. Il faut savoir que tu n'es plus en train de servir l'Éternel. En réalité, tu sers les hommes. Parce que tu donnes le meilleur de toi-même. Lorsque tu traites avec des personnes bien vues. Jésus a dit ceci. Donnez à ceux de qui vous n'attendez rien en retour. Faites du bien à ceux qui ne peuvent pas vous rendre le bien que vous faites. Celui qui sert Dieu, celui qui aime Dieu, est une personne Lorsqu'il s'agit de Dieu, elle fait toutes choses avec excellence. Ça veut dire qu'elle recherche la qualité. Alléluia. Alléluia. Si on demande de chanter, on te demande de danser, pour Dieu, tu ne danses pas mal. Si tu sais danser, c'est ton métier de danser, tu danses avec qualité. Tu lui offres le meilleur. Jamais tu ne lui offres quelque chose de passable. Parce que c'est un grand roi. Alléluia. La deuxième décision. La troisième décision à prendre, on avait dit, c'est la décision du sacrifice. C'est-à-dire, aimer Dieu, c'est prendre la décision que tout ce qu'on va faire pour Dieu constitue pour nous une petite perte. Si je donne de l'argent, je dois sentir que j'ai perdu quelque chose. Si je fais un présent, il doit me coûter quelque chose. Et nous l'avons étudié. Amen. Est-ce que ce n'est pas vrai pour nous-mêmes? Si ton mari est multimillionnaire, il dit, chérie, je t'aime. Tous les jours, je pense à toi. Et il vient, il t'offre des bijoux qui demain deviennent noirs, des pacotilles. Maintenant, quand tu vois sa voiture lui-même, chérie, je t'aime, ma chérie. Tiens, un bijou. Tu vois ce collier? C'est pour tout l'amour que j'ai pour toi. Le lendemain matin, c'est noir. Est-ce que tu vas apprécier? Pendant que lui, il est dans une belle voiture, il se fait plaisir. Le cadeau de ton mari, le cadeau de ton conjoint, devient comme une injure. C'était préférable qu'il ne donne pas. Pourquoi? Parce que tu ne sens pas qu'il s'est sacrifié. Si par contre ton mari n'a pas d'argent, il a des difficultés même pour payer le loyer, mais que chaque jour il prend le temps, même de t'acheter un bijou qui demain va devenir noir, ça va te toucher. Parce que tu sais qu'il aurait pu prendre cet argent-là pour faire autre chose, mais il a pensé à toi. Donc en réalité, la valeur d'un présent, c'est pas, quand on parle de qualité, c'est fonction de ce que tu perds en offrant ce présent. Si nous les hommes, nous savons distinguer le sacrifice d'une personne, ça veut dire nous sommes touchés par le sacrifice, sauf ceux qui convoitent. Ça veut dire quand tu as la convoitise, tu n'arrives pas à remarquer le sacrifice que les gens font. Alléluia. Alléluia. Si nous savons ces choses, si nous nous réagissons comme ça, à plus forte raison Dieu. Ce que je fais pour Dieu, aimer Dieu, si j'aime l'Éternel, je dois le faire avec sacrifice. Alléluia. Et la quatrième décision, celle du jour. Amen, amen. Est-ce qu'on est ensemble? Le quatrième choix, quatrième chose à faire, c'est décider ou choisir de ne rien faire sans avoir pris le temps d'invoquer Dieu et de rechercher ce qui le glorifie. Si je veux croître dans mon amour pour Dieu, je dois rechercher à penser à Dieu avant toute chose et en toute chose. Penser à Dieu. Dis à un voisin, pense à Dieu. Amen. Lorsque je donne l'expression de choisir ou de décider, ce dont je parle en fait, c'est quelque chose de délibéré. On a dit que l'amour ne commence pas par des sentiments. Je choisis moi-même que chaque fois que je ferai quelque chose pour Dieu, je vais le faire excellemment. Alléluia. Et puis quand on a développé ce message, on a compris que à terme, quand tu développes cet aspect-là, l'excellence en point 2 et le sacrifice en point 3, tu vas te rendre compte que même ta vie de tous les jours, l'entretien de ta maison, tu dois le faire de manière excellente parce que ta maison est aussi chez Dieu. Amen. Alléluia. Maintenant, le quatrième choix dit ceci. Il faut invoquer Dieu avant toute chose. Et c'est un exercice aussi à développer. Plus tu vas développer cette habitude, parce que souvent ce n'est pas une habitude, c'est quelque chose qu'on doit travailler sur soi-même. Plus tu vas la développer, plus ton canal de communion avec Dieu va s'agrandir. Alléluia. Plus ton amour pour Dieu est en train de grandir. Invoquez Dieu. Et nous tirons cela donc de Marc chapitre 12 verset 30. Le Seigneur dit là, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Dis avec moi, toute ta pensée. Toute ta pensée. Bon, dis avec moi donc, toute ma pensée. Je ne vous sens pas trop aujourd'hui. Hein. Il dit, je dois aimer Dieu de toute ma pensée. Amen. Si on dit toute la pensée, ça veut dire que l'homme a beaucoup de pensées. Et aimer Dieu de toute sa pensée, ça signifie que tu dois prendre le maximum de tes pensées et les donner à Dieu. Autrement dit, ça signifie que tu dois toujours penser à Dieu. en tout temps. Aimer Dieu de toute sa pensée, c'est penser à Dieu pour toute chose, en toute chose. C'est ça c'est ce que ça signifie. Celui qui n'aime pas Dieu de toute sa pensée, ça veut dire qu'il aime Dieu peut-être de la moitié de ses pensées, je ne sais pas combien. Mais ça veut dire qu'il pense à Dieu de temps en temps. Il y a certains qui dans la journée pensent à Dieu trois fois. Il y en a d'autres qui pensent à Dieu le dimanche. Lundi, ils pensent à autre chose. Non, Marc 12, 30 dit, le premier commandement, la clé de toutes les lois, le principe essentiel, la chose nécessaire à trouver, la chose nécessaire, c'est développer ton amour pour Dieu. C'est cet amour-là qui fait que tu cherches le trésor. Si tu n'as pas l'amour en toi, tu ne vas pas aller chercher la chose nécessaire et tu ne la verras jamais. Si tu n'as pas cet amour, tu ne vas pas découvrir entre 10 000 prétendants quel est l'homme ou la femme qu'il te faut. C'est l'amour qui donne ce discernement. C'est l'amour qui vous donne la capacité de connaître en tout point la volonté de Dieu. Aimer Dieu. Alléluia. Et qu'est-ce que le Seigneur dit? Il ne dit pas, premier commandement, tu vas simplement aimer Dieu. Il dit, tu vas l'aimer de toute ta force, de toute ta pensée. Ça veut dire, tu vas penser à lui constamment. Avant de manger, tu penses à Dieu. Celui qui ne pense pas à Dieu, en tout temps par exemple, il commence à manger et au milieu du repas, il se souvient qu'il n'a pas prié. Père, excuse-moi. Oh. Ou bien un jour, monsieur, tu as faim. Tu vas à la maison rapidement. Chérie, j'ai trop faim. Fais vite, on va manger. Ton plat dure aujourd'hui. Dès que le repas arrive, tu ne penses plus à Dieu. Tu penses à ton ventre. Tu vois? Donc, tu aimes Dieu, mais pas de toute ta pensée. De la moitié, tu aimes Dieu de la moitié de tes pensées. C'est-à-dire, au milieu du repas. Toi, c'est toujours à la moitié du film. Au milieu du film. Bon, c'est une manière de pour rire. Tu commences à penser. Eh, pendant que tu as commencé à manger, ta femme me dit, mais chérie, tu n'aimes pas prier. Ah, c'est vrai. Père, merci. Alors donc, aimer Dieu de toute sa pensée, c'est découvrir les moments dans notre journée où on ne pense pas à lui. Et faire en sorte qu'il devienne le point principal, le point focal de nos pensées. Je pense à lui. Je pense à lui quand je vais au travail. Je pense à Dieu. Alléluia. À tout moment, je suis à la maison, je pense à Dieu. Pour éduquer mes enfants, je pense à lui. Et penser à lui, ce n'est pas simplement avoir une idée vague de Dieu. C'est simplement l'invoquer. C'est pourquoi il dit, tu vas aimer l'Éternel ton Dieu de toute ta pensée, de tout ton cœur. Le cœur parle de ta volonté intérieure. Ça veut dire, dans ton cœur, tu dois le rechercher. Il dit, tu vas aimer l'Éternel de toute ta pensée. Ramène-moi le passage, s'il vous plaît. Marc 12, 30. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. De toute ta pensée. Alléluia. Et de tout ton cœur. Toute ta volonté. Et mes amis, c'est un exercice. Faire croître le canal entre vous et Dieu consiste à progresser dans ce sens-là. Vous devez croître. Vous devez dire, oh, j'ai fini la journée, je n'ai même pas pensé à lui. C'est pourquoi la Bible est capable de dire ceci, parler de la prière sans cesse. Il dit, tu vas prier sans cesse. En fait, prier sans cesse, c'est cette aptitude-là. Tu es toujours, ton esprit est toujours en prière. Toujours en prière. Tu es au boulot et tu travailles. Au départ, moi, à un moment donné, Dieu a voulu me donner cette école, apprendre à prier sans cesse. Au début de ma vie chrétienne, j'avais vraiment des heures de prière. Précise, matin, midi, soir. Et à un moment donné, avec le changement scolaire, professionnel, il m'était difficile de maintenir mon programme de prière. Je dis, Seigneur, aide-moi. Je vais me réveiller à 4 heures du matin. Mais au boulot, ou bien quand j'étais encore étudiant, on nous a retenu jusqu'à minuit, 1 heure du matin. Comment tu peux te réveiller à 4 heures? Je dis, ah Seigneur, mais c'est compliqué. Donc ce travail est pour moi une occasion de chute, je dois l'arrêter alors. Il dit, non, tu n'arrêtes pas. Je dis, qu'est-ce que tu veux? Il dit, je veux que tu apprennes à prier sans cesse. Sans cesse! Vous savez, j'avais mes horaires de prière. Je pense à Dieu pendant mes heures de prière. Matin, entre le matin et à midi. Comment on dit, à nous aller? Bon, je sais que je suis chrétien, je ne me comprends pas n'importe comment. Et puis à midi, maintenant, je me reconcentre à nouveau. Et le soir, je me reconcentre encore une fois. Et j'ai développé, après cette épreuve, ces moments-là, la prière sans cesse. Être constamment, avoir constamment les pensées vers l'Éternel. Amen. Et j'y travaille. Alléluia. Alléluia. Il ne faut pas penser à Dieu de temps en temps. Aimer Dieu, c'est lui consacrer vos pensées. C'est l'invoquer avant toutes choses. Et j'ai dit, c'est un exercice qui va de manière progressive. Lisons 1 Samuel, chapitre 4. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Donnez-moi un bon amen vitaminé. Ok, merci Seigneur, merci pour ta grâce. Tu ouvres notre entendement pour comprendre ces choses. 1 Samuel chapitre 4, il est dit au verset 1, la parole de Samuel s'adressait à tout Israël. Israël sortit à la rencontre des Philistins pour combattre. Ils campaient près d'Ebénézer et les Philistins étaient campés à Aphek. Les Philistins se rangèrent en bataille contre Israël et le combat s'engagea. Israël fut battu par les Philistins qui tuèrent sur le champ de bataille environ 4000 hommes. Verset 3, le peuple rentra au camp et les anciens d'Israël dirent, pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins? Allons chercher à Silo l'arche de l'alliance de l'Éternel, qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous délivre de la main de nos ennemis. Le peuple envoya à Silo, d'où l'on apporta l'arche de l'alliance de l'Éternel des armées, qui siège entre les chérubins. Les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, étaient là, avec l'arche de l'alliance de l'Éternel. Verset 5. Lorsque l'arche de l'alliance de l'Éternel entra dans le camp, tout Israël poussa de grands cris de joie, et la terre en fut ébranlée. 6. Le retentissement de ces cris fut entendu des Philistins, et il dit, que signifient ces grands cris qui retentissent dans le camp des Hébreux? Et ils apprirent que l'arche de l'Éternel était arrivée au camp. Verset 7. Les Philistins eurent peur parce qu'ils crurent que Dieu était venu dans le camp. Malheur à nous, dirent-ils, car il n'en a pas été ainsi jusqu'à présent. Malheur à nous, qui nous délivrera de la main de ces dieux puissants? Ce sont ces dieux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de plaies dans le désert. Verset 9. Fortifiez-vous et soyez des hommes, Philistins, de peur que vous ne soyez asservis aux Hébreux, comme ils vous ont été asservis. Soyez des hommes et combattez. Les Philistins livrèrent bataille et Israël fut battu. Chacun s'enfuit dans sa tente. La défaite fut très grande et il tomba d'Israël 30 000 hommes de pied. L'arche de Dieu fut prise et les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, moururent. Amen. Est-ce qu'on a compris cette histoire? Israël va en guerre contre les Philistins. Les Philistins avaient pris une partie d'Israël. Ils colonisaient, ils avaient capturé une partie d'Israël. Et Israël voulait mener une guerre de libération. Dis amen avec moi. Ça veut dire que c'est une guerre qui est normale, légitime. Mais il n'est pas fait mention qu'Israël a cherché Dieu. Avant d'aller livrer bataille, ils sont allés directement faire la guerre. Parce qu'ils estimaient qu'ils avaient raison. Ils commencent la guerre. Le premier jour, Israël perd combien de personnes? 4000 personnes. Ils ont pleuré. Hey Dieu, qu'est-ce qu'on a fait? Et dans la douleur, comme la plupart d'entre nous, ils se sont mis à penser à Dieu. Au début, ils n'ont pas pensé à Dieu. Après avoir perdu 4000 personnes, ils se sont mis à penser à Dieu. Et ils ont dit, là, vraiment, 4000, c'est trop. Ça, c'est un massacre. Allons chercher l'arche de l'Éternel. Dis avec moi l'arche de l'Éternel. L'arche de l'Éternel, cher ami, c'est le symbole de la gloire suprême de Dieu. L'arche de l'Éternel se trouvait dans le tabernacle de Moïse, dans la troisième pièce. Le parvis, le lieu saint, et dans le lieu très saint était l'arche de l'Éternel. L'arche de l'Éternel est celui-là qui a ouvert le Jourdain en deux. L'arche de l'Éternel, c'est celui qui a fait le tour de Jéricho. Et les murailles de Jéricho se sont effondrées. Quand l'arche de l'Éternel arrive, Dieu même est là. Alors Israël dit non. Ils nous ont trop, pour parler comment ils voient, trop mal tués. On va amener l'ultime, l'arche de l'Éternel. Ils sont partis chercher Élie et puis, Ophni et puis Phiné. Ils ont soulevé l'arche. Quand l'arche est arrivée au camp, ils ont fait la fête. Tellement, ils disent non. Maintenant, Philistins, vous aurez affaire
au Dieu grand et puissant, l'Éternel. Oh, oh, l'Éternel des armées arrive. Ils ont dansé toute la Bible dit ils ont fait la fête la nuit. Les Philistins qui devaient s'attendre à voir des gens pleurer, en tant qu'il y a une fête, il y a la musique là-bas, il y a les DJ, tout le monde est là. Oh, l'âge de l'Éternel, ça danse même l'âge. Que les Philistins, ils sont morts. Et les Philistins ont envoyé un espion pour aller vérifier. Quand les Philistins vont regarder, il revient et puis il dit, ah, on dit, qu'est-ce que tu as vu, jeune homme? Il dit, l'arche de l'Éternel est arrivée. Ah, vous savez, le passage dit, les Philistins ont été déçus, découragés. Il dit, vraiment. Mais les Israéliens, t'as un petit palabre, on s'amuse entre nous. Là, ils vont, quelle affaire d'amener l'arche là-dedans? Vous connaissez, et puis donc les anciens disent, est-ce que vous avez entendu parler de l'arche? Parce qu'il y en a qui disent, c'est quoi l'arche? On dit, vous n'avez pas entendu qu'Israël, ils ont traversé la mer à sec, et le fleuve du Jourdain à sec. Parce que quand ils ont traversé la mer, il n'y avait pas l'arche encore. Amen. Quand ils ont traversé le Jourdain, il y avait l'arche. L'arche, quand l'arche est passée, le fleuve s'est coupé en deux. Vous avez entendu parler de la grande ville Jéricho, non? C'était l'histoire ancienne là-bas. Il dit, oui, c'est l'arche lui-même. Quoi? On est mort. Mais on se battait tranquillement entre nous. Eux, ils amènent l'âge. Comme si on amenait une bombe atomique, quoi. C'est pas bien, ils sont pas sérieux. Et maintenant, les gens se disent, bon, prenons courage, affrontons-les. Ils se sont fortifiés. Ils disent, affrontons-les, sinon nous serons asservis à ce peuple. Et ils se lèvent pour se battre. Deuxième jour de bataille. Il y a eu combien de morts du côté israélien? 30 000 morts. Ça fait une multiplication par combien? Frère, juste pour vérifier que vous maîtrisez votre table de multiplication ou de division. Il y a eu 4 000 morts la première bataille. La deuxième bataille, il y a eu 30 000. Combien de fois plus? 7 fois et quelques. Voilà. Amen. 7 fois plus de morts quand Dieu est venu. Quand Dieu n'était pas là, il y a eu 4000. Maintenant, Dieu arrive. Il augmente l'addition. Il dit, vous avez 4000? Je vais monter le truc. C'est triste, mais ça vous montre un peu la façon dont la gloire de Dieu travaille. Vous ne pensez pas à Dieu et subitement au milieu de l'aventure, vous vous souvenez qu'il existe. Dieu n'est pas ton petit copain. Lorsqu'il arrive, il t'apprend d'abord à le respecter. Dieu, il est le héros du film. Il commence le film, il n'arrive pas au milieu. C'est le brave. Leur combat était légitime. Et dans la vie, mon ami, tu as beaucoup de challenges qui sont légitimes. Mais tu ne penses pas à Dieu. Tu entreprends tes projets et au milieu, tu appelles l'Éternel. Hey, pasteur, ma boîte est en train de tomber. Quand tu commençais, est-ce que toutes tes pensées étaient à lui? Pasteur, mon foyer ne va plus. Priez pour moi. Est-ce que quand tu as commencé l'histoire du foyer, tu avais pensé à lui? C'est bien de penser à Dieu. Même si tu penses en retard, c'est mieux que rien. Amen. Alléluia. Vous savez, Dieu a délivré Israël parce que les Philistins vont transporter l'arche. Ils vont prendre l'arche. Parce que ceux-mêmes qui ont amené l'arche, Ophni et Phiné, ont été tués. Parce que c'était eux le problème même. C'était des pasteurs pervers. La Bible dit qu'ils couchaient avec les femmes qui venaient à la maison de l'Éternel. La Bible dit qu'ils s'occupaient mal de l'offrande de l'Éternel. Ils volaient dans l'offrande. Ils avaient une mauvaise attitude. Et le péché était au milieu du peuple. Le peuple marchait sans Dieu, sans penser à Dieu. Et ils avaient l'arche de l'Éternel comme un petit fétiche. On vit comme on veut. Et quand on a besoin de lui, on l'appelle au secours. Éternel, viens. Mais l'Éternel est juste. Lorsqu'il arrive dans ta vie, brusquement, au dernier moment, il n'attaque pas d'abord ton ennemi. Parce que, vous savez, je vous ai enseigné ici qu'il y a trois camps. Le camp de Dieu, là. Dieu, il a son propre camp. Dieu n'est pas avec toi, c'est toi qui dois être avec lui. Dieu n'est pas le supporteur d'une personne. C'est toi qui le soutiens, c'est toi qui le supportes.
Dieu a ses intérêts. Dieu combat et détruit les œuvres du diable. Donc lorsqu'il arrive dans ta vie, le diable qui était là, parce que toi tu vois le diable qui est chez ton adversaire. Il y a un petit diable. Alléluia. C'est vrai qu'il y a le diable chez ton ennemi qui veut te tuer. Mais il y a un peu de diable. Chez toi aussi qui as appelé l'Éternel, il y a un peu de diable. Donc quand Dieu arrive, il dit, avant d'enlever la paille dans l'œil de l'autre, on enlève d'abord la poutre. Donc Dieu commence à te traiter avant d'aller traiter tes ennemis. Tu dis, Seigneur, au secours, mon oncle veut me tuer, c'est un gros sorcier, il veut tuer toute ma famille. Mais entre-temps, toi-même, tu es un peu dans l'adultère. Mais quand il arrive, elle dit, il mélange tout d'abord. Tu dis, mais Dieu, j'ai fait quoi? Mon oncle est toujours vivant. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Dieu consume d'abord ce qui n'est pas de lui dans son propre camp, dans le camp de ceux qui l'ont appelé. Si tu invoques l'Éternel, il t'aime tellement qu'il corrige. Donc quand il arrive là, les deux pasteurs pervertis, ils règlent leur cas. Les 30 000 là, je ne sais pas quel était leur problème. Mais ce qui est sûr, il les a corrigés. Parce que tout le peuple était perverti. Et lorsque les Philistins ont pris l'arche pour amener l'arche, continuez le passage. Les Philistins ont pris l'arche de l'Éternel et ils sont partis avec l'arche dans leur pays. Ce que l'Éternel a fait dans leur pays. Lorsqu'ils ont pris l'arche, ils pensaient qu'ils avaient eu la victoire. Or cette fois-ci, l'arche a travaillé de manière différente. Il est rentré dans leur camp, il a détruit leur divinité. Ils avaient un dieu qu'ils appelaient Dagon. Dieu l'a cassé, détruit toute leur divinité. Et puis il y a eu beaucoup de morts là-bas. Eux-mêmes, ils ont eu peur et ils ont renvoyé l'arche en Israël. Amen. Dieu, avant de combattre tes ennemis, combat le diable qui est en toi. Alléluia. Dis à un voisin, c'est bien, invoque l'Éternel des amis. N'aie pas peur. Amen. Quand il vient, ça fait mal, mais à la fin, le but est atteint. Alléluia. Alléluia. Josué a connu cette expérience. Après avoir triomphé de Jéricho, Josué était confiant. Il s'est dit, oh voilà, il y a une petite tribu qui nous attend, la tribu de Haï. On va les écraser en quelques minutes. Il n'a pas pris le temps de penser à Dieu. Il n'a pas pris le temps d'invoquer Dieu. Il n'a pas pris le temps de chercher Dieu. Même pour les choses les plus petites. Et ils se sont engagés. Il a pris, il dit, toi. Tuez-moi, c'est pas les Haïtiens. Hein. Le peuple s'appelait Haï. Tuez-moi, c'est les habitants de Haï. Et ils sont arrivés là. Et ils ont été battus. Et ils ont même fui. Et c'est en ce moment-là que Josué va se souvenir. Qu'est-ce que j'ai fait? Et il va invoquer l'Éternel. Et Dieu va lui dire, il y a l'interdit au milieu du peuple. Lorsque vous êtes parti prendre Jéricho, j'avais interdit de toucher quoi que ce soit dans cette ville. Mais il y a une personne au milieu de vous, du nom de Achan, qui a volé et qui a gardé un trésor, une chose que j'avais interdite. C'est la raison pour laquelle vous avez perdu. Mais comme toi, Josué, tu étais trop confiant, tu n'as pas pensé à moi, tu ne m'as pas invoqué. Si tu m'avais invoqué avant d'aller mener la bataille, je t'aurais dit, vous n'êtes pas prêt. Mais comme tu ne m'as pas invoqué, tu es parti sûr de toi, tu as connu la défaite et tu as connu l'humiliation. Alléluia. Mes amis, n'attendons pas que des drames nous arrivent pour penser à l'Éternel. Nous lui appartenons déjà comme Israël. Donc on ne va pas retourner dans le monde, on est déjà en lui. Tout ce qu'il faut cultiver, c'est ce caractère-là de penser toujours à Dieu. Alléluia. Tu te lèves le matin, Seigneur, et tu développes cela. Je sais qu'au départ, ce n'est pas facile. Mais si vous vous donnez cela comme une quête personnelle, vous allez y arriver. Vous allez voir que tout le jour, vous invoquez l'Éternel. Vous rentrez au travail, on vous donne une chose à faire. Vous ne dites jamais c'est facile. Seigneur, ta grâce. Seigneur, ta grâce. Je veux me marier. Seigneur, il y a beaucoup de prétendants. Dirige-moi. Je te consulte. J'invoque l'Éternel. Quelqu'un me dit, mais pasteur, comment peut-on reconnaître la voix de Dieu? Tu sais, la voix de Dieu, c'est vrai, Dieu parle. Mais on peut ne pas savoir la saisir à cause de sa maturité spirituelle.
Voilà, je veux dire, si quelqu'un n'a pas l'habitude d'être dans la présence de Dieu, il a des difficultés pour percevoir Dieu. Amen. Si je t'appelle aujourd'hui au téléphone, tu me diras sûrement qui est au bout du fil. Mais si je t'appelle tout le temps, quand tu décroches, tu peux dire directement mon prénom. Ah, pasteur, mon maître, c'est vous. Tu n'as pas besoin que je dise, allô, c'est moi. Parce qu'à force de parler avec moi, tu finis par reconnaître ma voix. Donc, on ne peut pas reconnaître la voix avec des signes comme ça. C'est juste l'habitude d'eux. Si j'ai l'habitude d'entendre une personne, je finis par reconnaître sa voix. Si je suis plongé toujours dans la parole de Dieu, je finis par reconnaître la voix. Mais au départ, ce n'est pas forcément évident. Amen. Ce n'est pas forcément évident. Donc, je me plonge dans la voix de l'Éternel qui est la Bible. Je la médite constamment. Alors, quand je prie, quand je suis à ce niveau, quand je prie, je demande, Seigneur, si tu es avec moi dans cette aventure, ouvre-moi les portes. Si tu n'es pas là-dedans, arrête-moi. Prenez le temps d'invoquer Dieu pour toutes choses, même les choses les plus petites. Développez cela. C'est la raison pour laquelle, une chose simple, on mange tous les jours. La Bible dit de rendre grâce pour cela. Quand vous rendez grâce à Dieu, quand vous l'invoquez, je n'ai pas des prières du bout des lèvres. Parce que beaucoup de gens font des prières du bout des lèvres pour la nourriture. Le repas arrive, c'est une coutume. Depuis que tu es petit, on t'a appris à faire ça. Seigneur, je bénis ton nom, au nom de Jésus. Amen. Mais tu n'as pas pensé à Dieu. C'est pourquoi j'ai beaucoup insisté sur la notion de penser à ce que je fais. Tu vas aimer Dieu de toute ta pensée. Père, merci pour ce repas. Tu penses. Merci parce qu'il me fait du bien. Merci parce que tu me l'as donné. C'est penser. Je veux commencer un boulot, je veux commencer ma journée, je pense à Dieu. Je pense tout le temps à lui. Ah Seigneur, voici une journée qui commence. Merci parce que tu es au contrôle et que tu me diriges. Alléluia. Si Israël avait fait cela avant de mener la guerre, Dieu leur aurait dit la clé. Il a dit, repentez-vous. Vos deux pasteurs là, ils ne sont pas sérieux. Allez leur parler, qu'ils changent de vie et je vous donnerai la victoire. Nettoyez d'abord chez vous. Il faut éviter des drames. En prenant le temps de penser d'abord à Dieu. Quand on appelle l'Éternel au milieu de la bataille, ça peut causer des problèmes. Il faut l'appeler avant. Alléluia. Il faut l'invoquer avant. Il faut le chercher avant. Avant toute chose. Une chose même qui est évidente, prends le temps de le chercher. Prends le temps de l'invoquer. Quelquefois, tu as envie de faire une chose. Tu crois que c'est bien. Dis Seigneur, j'ai envie de le faire. Si tu es là-dedans, permets. Si tu n'es pas là-dedans, arrête-moi. Vous allez voir, vous faites des déplacements, Dieu même va faire en sorte que vos voitures même tombent en panne. Pour ne pas que vous arriviez là où vous souhaitez partir. Tout simplement parce que vous avez pris le temps de l'invoquer. Un jour, je me retrouve après un programme et les gens m'amènent à manger. Et je rends grâce à Dieu et j'entends sa voix qui me dit, tu ne manges pas. Il y avait mon voisin qui était à côté. Je ne peux pas lui dire, arrête. Je n'ai pas eu le temps. En fait, comme ça, tout est arrivé en même temps. Lui aussi, il a mangé. Quelques temps après, la douleur de ventre. J'ai dû prier pour lui pour qu'il soit guéri. Mais les gens avaient tenté de m'empoisonner. Vous savez, ça paraît simple. Vous voyez des gens qui étaient contents, t'accueillent à une grande croisade. Tu dis non, ils ont tellement été bénis, ils vont me faire du bien. Oh, on veut me faire du mal. Ce n'est pas eux tous, c'est deux ou trois individus dans l'affaire. Mais rendre grâce, rendre grâce. Pas simplement du bout des lèvres, mais en ce moment-là, je pense à Dieu. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de toute ta pensée. En ce moment-là, je pense à Dieu. Je veux voyager en ce moment-là, je pense à Dieu. Je l'invoque dans mon cœur ou en prononçant des paroles du bout des lèvres. Mais c'est sincère. Et c'était quelque chose que je cultive. Il y a des fois, je vais manquer de le faire. Mais je me souviens de la parole et puis je reprends. Je travaille. Jusqu'à ce que je peux dire, j'aime l'Éternel de tout mon cœur et de toute ma pensée. C'est-à-dire, je ne fais pas une journée sans manquer de penser à Dieu pour quoi que ce soit. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Est-ce qu'on est ensemble? Donne-moi un grand amen. Amen, amen, amen. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Ce que le Seigneur ton Dieu a voulu te dire ce matin, c'est que tu vas l'aimer de toute ta pensée. Tu vas apprendre à le rechercher tous les jours de ta vie. Je ne te condamne pas si tu n'as pas fait cela jusqu'à présent. Si tu ignorais, tu dis, Seigneur, j'ignorais ces choses. Apprends-moi à te chercher. Apprends-moi à te chercher. Même lorsque vous avez des grandes opportunités, apprenez à chercher Dieu. Mes amis, je vous le dis comme ça, c'est un exercice passionnant. C'est un exercice passionnant. Amen. Quelquefois, vous invoquez l'Éternel, ou bien quand vous, vous manquez de le faire, vous vous retrouvez avec de gros problèmes. En tout cas, ce que les... Je n'ai pas connu la mort comme Israël l'a connu. L'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. En fait, Dieu nous montre combien de fois on peut récolter des choses néfastes par ignorance. Et dans le Nouveau Testament, nous apprenons à le vivre. Et moi, j'ai connu cela dans ma vie. De gros échecs, malgré la prière, mais des prières tardives. En réalité, ça n'a pas été pour moi des échecs, c'était pour moi des leçons. Parce qu'en réalité, Israël n'a pas perdu la bataille, la guerre. La guerre, à la fin, Israël l'a gagnée. Mais Dieu a corrigé d'abord au milieu d'eux. Amen. Et souvent, lorsqu'on est lancé dans un événement, invoquer l'Éternel au milieu, ça peut être très compliqué. Parce que Dieu, il honore sa parole. Il dit, mon jugement va commencer par ma maison. Dieu ne juge pas tes adversaires avant de t'avoir jugé. Il trouve que ce n'est pas juste. Il commence par toi-même. C'est la raison pour laquelle, avant toute chose, avant d'affronter la journée, avant d'affronter la vie, traite avec ton Père. Pense à lui. Pour qu'il te juge déjà, pour qu'il corrige tes fautes à l'intérieur, pour qu'il te parle dans le moment d'intimité, pour qu'il te dise, voilà ce qui est interdit dans ta vie. Et que lavé et prêt, tu puisses affronter ta journée, affronter tes challenges, affronter tes défis avec sérénité, parce qu'il est avec toi. Car Dieu ne souhaite pas que le malheur t'arrive. Tous les projets qu'il a pour toi sont des projets favorables. Il veut que tu sois heureuse dans ton mariage. Il veut que tu sois heureux avec ton mari. Il veut que tu aies des enfants. C'est lui qui donne toutes ces choses. Mais prends garde de commencer ta vie, de chercher à te marier, de chercher ton travail sans l'invoquer, sans le reconnaître dans toutes tes voies et dans toutes tes œuvres. Prends garde. Parlons à Dieu, parlons à Dieu. Que chacun parle pour sa propre vie. Au nom de Jésus. Merci Seigneur.
coule comme un
torrent. Que ta vie m'inonde, Seigneur. Que ta sagesse, que ton amour coule en moi. Apprends-moi à te servir. Apprends-moi à te servir avec excellence. Apprends-moi à te servir avec sacrifice. Apprends-moi à te reconnaître dans toutes mes voies et dans toutes mes œuvres. En tout temps, apprends-moi à te reconnaître. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout et acclamer ce grand Dieu, acclamer notre Seigneur et notre Dieu pour tout ce qu'il fait dans nos vies.
Vous avez été béni par ce message. À votre tour, conseillez-le à une personne. Vous contribuerez ainsi à faire progresser l'œuvre du Seigneur. Que Dieu vous bénisse.